Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le 16 avril de cette année, l'Association des musulmans de Mantes Sud, AMMS, trouve dans sa boîte aux lettres de la terrine de porc moisie accompagnée d'une odeur nauséabonde. Le lendemain, dans cette même boîte, c'est une lettre dont, je cite, les écrits portent atteinte à la dignité du culte musulman et appellent à la haine raciale envers les personnes pratiquant ce dernier, explique sur Mediapart Abdelaziz El-Jawari, le président de l'association, qui a déjà déposé 3 plaintes dans ce sens. Dans la lettre, on lit, je cite encore, « Nous souhaitons bon courage au maire Cyril Nôte, car il va avoir beaucoup de travail pour faire un bon nettoyage, en particulier sur la race musulmane. » car elle est représentée par de la racaille qui ont fui leur pays comme des cafards après l'avoir mis à feu et à sang. Fin de citation. À l'origine de ces tensions, le mot est faible, l'arrivée au pouvoir à Nantes d'un maire FN qui s'empresse d'annuler le projet de construction d'une nouvelle salle de prière pour la communauté musulmane. Un projet d'installation pourtant validé et voté par la précédente mairie socialiste. Le nouveau local a été trouvé, les fonds sont prêts à être débloqués, la promesse de vente a été signée, le permis de construire déposé. Mais le jeune maire Cyril Nôte ne l'entend pas ainsi et bloque tout, comme le raconte au mois d'avril Marine Turquie sur le dit site Mediapart. L'affaire ne s'arrête pas là, non seulement le jeune maire met un terme au projet de nouvelle salle, mais il annonce maintenant la démolition imminente de l'ancienne. Une démolition par ailleurs signée par la précédente mairie puisqu'une autre salle était prévue. Pendant ce temps, les musulmans décident de continuer à occuper l'ancienne salle et de la rénover. Mais le pavillon n'est plus aux normes depuis longtemps et l'association n'a pas de permis pour faire les travaux. Le réaménagement de l'ancienne salle est vécu par l'association comme un acte de résistance. On en est là fin octobre, tandis qu'un avis de démolition est placardé sur les murs du pavillon. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, une autre histoire de mosquée dans une ville Front National. C'est le troisième épisode à Fréjus de notre partenariat avec Mediapart, du fond et du son, la meilleure colloque du PAF, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un récit de Rémi Douate.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je vais vous demander de monter au premier étage.
Me voici à nouveau assis sur le canapé en sky du premier étage de la mairie de Fréjus. La dernière fois, c'était pour parler des coupes budgétaires imposées par la mairie FN aux 3 centres sociaux de la ville. Depuis, les choses se sont précipitées. Au centre des Bosquets, 2 personnes ont été licenciées en septembre, faute de budget. Quant au centre social de la Villeneuve, il va tout simplement fermer, suite à la décision du maire, David Racheline.
Bonjour, où est-ce que voulez-vous mettre ?
Mais c'est une autre histoire qui m'amène aujourd'hui à le rencontrer. Je viens lui demander des nouvelles de la mosquée en construction dans le quartier de la Gabelle. Elle a été au centre de la campagne électorale, et bien que presque achevée, elle est encore remise en question.
J'ai parlé de la mosquée pendant la campagne. Chacun savait pertinemment que j'allais mettre de l'ordre, entre guillemets, juridique en tout cas, dans ce dossier-là. Et ça n'est une surprise pour personne. J'ai donc étudié juridiquement l'intégralité du dossier, fait en sorte que chacun comprenne bien de quoi il s'agissait, discuter avec les services de l'État, avec toutes les parties prenantes. Et j'en conclus aujourd'hui que ce permis de construire, de mon point de vue, est caduque et que nous serons chargés de faire respecter la loi et donc de ne pas poursuivre cette construction. On ne peut pas aller plus loin alors que la justice peut être amenée à se prononcer pour dire que effectivement le permis est caduque.
Et ça peut aller vers une destruction ?
C'est possible. Quand une maison est construite sur un terrain sans permis de construire, on la démolit. Là, ce sera le même principe, probablement.
Un permis devient caduque quand les travaux n'ont pas commencé dans les 2 ans qui suivent l'obtention du permis. Dans le cas de la mosquée, il est vrai que les travaux ont démarré lentement, faute de financement. Mais le maire peut renouveler ce permis, ce que David Racheline a décidé de ne pas faire.
Je ne crois pas que la mosquée, d'ailleurs, dans les règles du Coran, soit obligatoire pour prier. On peut le faire aussi chez soi.
La surprise est immense. Car jusqu'ici, la mosquée était acquise. Je me souviens de ma discussion avec Driss Maroufi, le président de l'association Al-Fat, qui porte le projet de la mosquée. C'était cet été, lors de mon premier passage à Fréjus. Il ne souhaite alors pas parler au micro, mais me dit que David Rachline s'est discrètement engagé auprès de lui à ne pas remettre le chantier en cause une fois élu. Ce qui ne l'a pas empêché de faire publiquement campagne contre la mosquée. Pendant que le maire tente de m'expliquer que la mosquée n'a pas sa place à Fréjus, je repense au jeune Rachline, qui fréquentait les apéros saucisson-pinard quand il dirigeait le Front National de la Jeunesse. Je le coupe dans sa démonstration juridique et lui pose la question. Iriez-vous encore aujourd'hui à ces apéros saucisson-pinard ?
Pourquoi pas ? Je pourrais aller à un apéro saucisson-pinard, c'est pas défendu par la loi. Voilà, moi je vais voir les Fréjusiens là où ils se trouvent et il n'y a pas de problème. Je ne crois pas que ce soit un geste agressif que d'aller à un apéro saucisson-pinard. Il ne faut pas voir de la politique partout. En l'occurrence, je ne sais plus quel était l'objet de cet apéritif saucisson-pinard. Peu importe, à vrai dire, mais je vous dis...
L'objet, c'est nécessairement d'exclure ceux qui ne mangent pas de saucisson.
Mais non, pas nécessairement, puisqu'il y a du pinard et ils peuvent prendre du pinard, ils ne sont pas obligés de manger de saucisson.
Vous savez bien que les musulmans ne boivent pas d'alcool.
Pour certains, mais si, il y a plein de... C'est là où vous vous trompez, vous voyez, il y a plein de musulmans parfaitement intégrés, et moi j'ai des amis à Fréjus, parfaitement intégrés, assimilés, qui ne se sentent pas obligés de respecter des règles un petit peu, peut-être un petit peu exagérées quelquefois. C'est un vrai sujet que d'avoir combattu à l'époque les occupations dans les rues de notre pays.
Moi, je crois pas qu'on puisse, occupations.
Je crois pas qu'on puisse des occupations illégales. Le fait de prier dans la rue n'est pas quelque chose qu'on peut accepter dans une république laïque. Et si les gens qui organisaient l'apéritif saucisson pinard à l'époque ont voulu dire ça, c'est peut-être pour ça que j'y étais allé à l'époque.
Alors là, ce n'est pas une situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver à Fréjus, si justement cette mosquée n'advient pas ?
Je fais simplement respecter la loi dans ce dossier. Voilà, c'est le seul sujet. Parce que vous avez une maison construite sur un terrain sur lequel le permis de construire n'est pas valable. Évidemment, la maison est détruite, mais c'est valable en droit pour toutes les constructions illicites, entre guillemets.
Vous vous en réjouissez ?
Je n'ai pas d'avis particulier, je fais un simple constat.
Vous savez que ça va réjouir votre électorat.
Je ne sais pas qui ça va réjouir, mais moi je fais respecter la loi. Et si ça satisfait l'électorat que je fasse respecter la loi, alors tant mieux.
Il est bien modeste devant moi, David Rachline. Un peu moins en petit comité devant ses militants.
Sachez que j'ai adressé un courrier tout à l'heure au président de l'association ELFAT, qui est l'association qui construit la mosquée de Fréjus, à qui je donne 10 jours pour me donner des explications sur ce qui me semble être une illégalité du permis de construire. Et dans 10 jours, je prendrai un arrêté suspensif des travaux, mettant ainsi un terme. Mettant ainsi un terme à une polémique que j'ai moi-même lancée à Fréjus, puisque je considérais déjà à l'époque que le permis de construire n'était pas légal. À la suite de quoi, nous demanderons aux Fréjusiens ce qu'ils en pensent. C'est ce à quoi je m'étais engagé pendant la campagne. Et ce sera un engagement de plus qui sera tenu. Ils nous diront si oui ou non ils veulent une mosquée à Fréjus. J'ai évidemment une petite idée en ce qui me concerne sur la réponse. Et la ville respectera évidemment le choix des Fréjusiens.
Le référendum sur la mosquée est un vrai serpent de mer. Durant la campagne, David Rachline ne jure plus que par lui. Mais cet été, quand je lui pose la question, il botte en touche. Et voilà qu'à nouveau, le référendum est indispensable. Pourquoi ? À qui s'adresse le maire de la ville dans ses tergiversations ? Elsa Di Meo, socialiste et figure de l'opposition locale, me répond.
En attaquant cette mosquée, d'abord il parle à son électorat, qui était très mécontent de son inaction en la matière. Il parle surtout à son parti, puisque très clairement la décision a été prise d'agir de la part de Marine Le Pen et de David Rachline sur ordre de Français de souche. Bref, moi je suis navrée que les Fréjusiens soient les otages aujourd'hui de l'extrême droite française. Ça veut dire quoi ? On veut nous faire croire que c'est les Fréjusiens qui décident, alors qu'au final, ce ne sont ni plus ni moins que les réseaux d'extrême droite qui font la politique fréjusienne. Et moi j'en ai marre de voir aujourd'hui cette population pointée du doigt au gré des humeurs de David Rachline ou des humeurs de Marine Le Pen ou des humeurs de Français de souche. Voilà. Et puis, c'est aussi dit son inaction depuis mars dernier. Si David Rachline avait envie de faire quelque chose, pourquoi ne l'a-t-il pas fait au moment de son élection ? Il arrive aux responsabilités en mars dernier, il ne fait rien. Même pire, il fait des déclarations contraires sur le quartier en allant voir les gens et en leur disant « Vous inquiétez pas, de toute façon je ne vais rien faire, ne vous inquiétez pas, de toute façon elle est déjà construite. » Par ailleurs c'est vrai, elle est déjà construite cette mosquée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer les bulldozers ? Enfin, allons au bout de la logique. Une fois que le permis de construire éventuellement a un souci, on fait quoi ? On redonne un autre permis de construire ? Ou alors on rase, ou on dit aux gens « Regardez cette mosquée, mais vous n'avez pas le droit d'y aller ». Bref, ce que fait David Rachline, ce n'est ni plus ni moins que de mettre le feu sur un quartier de cette ville. Et il le fait volontairement. Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce parce qu'il a de nouveaux enjeux électoraux devant lui ? Est-ce parce que maintenant qu'il est sénateur, il considère qu'il faut porter la voix du Front National ici ? Ou est-ce tout simplement... que parce qu'il n'a pas le choix vis-à-vis d'une partie de son électorat. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que derrière ces atermoiements de David Rachline, derrière ces changements de position, il y a des gens. Voilà. Et en l'occurrence, il y a des habitants sur ce quartier, il y a des jeunes qui se sentent attaqués d'abord dans leurs convictions personnelles, mais qui en plus se sentent en permanence jetés en pâture sur la scène publique, à grand renfort de soutien de l'UMP varoise, bien évidemment, mais qui ont le sentiment d'avoir moins le droit d'être fréjussiens que d'autres. Le premier des sujets sur la mosquée, c'est sans aucun doute le mensonge de David Rachline qui a expliqué que cela avait été fait dans le dos des Fréjussiens. Monsieur Rachline était peut-être en train de rêver lorsque, dans un conseil municipal en 2011, la question du permis de la mosquée a été évoquée. Il a même posé une question demandant des précisions sur ce permis et à l'époque, la majorité municipale à laquelle je n'appartenais pas lui a demandé de prendre tout simplement le temps d'aller voir le dossier au service urbain. Ce qu'il n'a jamais fait. Quand David Rachline s'insurge en disant « c'est une mosquée de 2000 personnes qui va être construite », c'est faux. Le permis de construire a toujours été revendiqué pour près de 830 à 880 personnes. La seule chose, c'est que le formulaire pour pouvoir accueillir du public va jusqu'à 2000 personnes. Mais il n'a jamais été question de cela. Quand on dit aux Fréjussiens, quand David Rachline ment aux Fréjussiens en disant « des musulmans vont venir nous envahir de toute la région », mais alors pourquoi est-ce qu'on construit une mosquée à Marseille ? Parce que les gens vont aller prier à Marseille. Pourquoi est-ce qu'il y a une mosquée à Cannes ? Ils vont aller prier à Cannes. Arrêtons, arrêtons les fantasmes, arrêtons de stigmatiser un certain nombre de nos concitoyens qui, avant d'être musulmans, sont fréjussiens.
France Culture, les pieds sur terre.
Je pars pour La Gabelle, à 30 minutes à pied de la mairie. À l'entrée du quartier, juste après le rond-point Marcel Pagnol, il y a une pizzeria. Il est 13h. Le soleil d'octobre chauffe encore la terrasse. Je m'assois. Je m'adresse à mon voisin de table. Il lui raconte pourquoi je suis là. Son sourire s'efface. Il refuse de parler au micro. Tout comme cette passante à qui je m'adresse. À quelques pas de là, une troisième, puis une quatrième personne refuse de me parler de la mosquée. Un petit débat s'engage sur le trottoir. Je ne suis pas le bienvenu. Rien de méchant. Ils m'expliquent simplement qu'ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Ils veulent voir la mosquée aboutir et ne veulent braquer personne. Je poursuis ma route jusqu'au chantier. La mosquée est là, devant moi, presque terminée. Il ne reste plus que la coupole centrale à poser et le bâtiment sera prêt à accueillir les fidèles. Je peine vraiment à imaginer un bulldozer détruire l'édifice. Depuis la rue, j'aperçois le président de la mosquée, Driss Maroufi. Je lui demande si je peux le rejoindre. Mon micro l'ennuie. Encore cette phrase. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Je lui propose de lui faire écouter un entretien que j'ai eu avec David Rachline. Alors, les portes s'ouvrent. Je me retrouve dans la mosquée. Un verre de thé à la main, entouré de Driss, Miloud, Hicham et Badradine. Le magnéto est au centre de la table et tous tendent l'oreille. Ils bondissent en entendant la phrase de David Rachline. Il est possible... que la mosquée soit détruite.
La mosquée sera jamais détruite. Avant qu'ils cassent la mosquée, déjà, ils vont mourir pour cette mosquée. On a travaillé beaucoup pour cette mosquée. Et cette mosquée, ce n'était pas donné. C'est notre argent. On a acheté le terrain. C'est le garage qu'on l'a acheté. On a dépensé notre sang ici. Personne qui peut détruire cette mosquée-là. Personne. Voilà. Monsieur Rachline, il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, il est maire. Quand il était au début à la campagne, il était toujours gentil. On a été le voir avant, quand il a été élu. Donc il a dit, bon, on va laisser la mosquée tranquille. Les gens de la Gabelle, on laisse tranquille. On va travailler ensemble. Ça fait 7 mois. Aujourd'hui, il change. Pourquoi il change? Parce qu'il était poussé par des gens derrière lui. Nous, on a tout ce qu'il faut. On a les éléments. On a confiance au juge. On a confiance à l'État français. Et voilà. Et on ne part pas d'ici. On habite ici. Ça fait 40 ans qu'on habite ici. Et voilà, ça ne gêne personne. On est content de cette mosquée. Voilà.
On a commencé cette mosquée avec les autorités, monsieur le sous-préfet de la préfecture, des gens de l'urbanisme. Tout le monde a signé pour cette mosquée. Aujourd'hui, ils nous disent que le permis est caduque. On ne sait pas pour quelle raison il est caduque.
Dire que la mosquée va être détruite, qu'ils jouent sur tous les fronts pour essayer de défendre sa place. Et moi, je pense que s'il prend un peu la voie de la logique, il faudrait nous aider au lieu de nous tacler.
On n'a jamais rien demandé à personne, que ce soit la mairie, l'État. C'est vraiment notre argent personnel. Donc les fonds, c'est des dons des fidèles. Dans les garages, honnêtement, c'est tout ce qu'on avait. On n'a jamais rien demandé, on ne nous a jamais rien proposé. Donc quelque part, on s'est un peu débrouillé nous-mêmes. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart des fidèles, ils sont issus de ce quartier. Nous, on a jamais cherché à on va dire, faire tâche à la ville. On a toujours voulu avoir un endroit assez discret, parce qu'en zone, par exemple, à la Palude, c'est une zone commerciale, on n'aurait pas notre place. Imaginez-vous bien des gens en djellaba, parcourir les allées, alors que vous avez des artisans, vous avez des clients, vous avez des commerçants. Je veux dire, l'idéal, l'endroit idéal, c'est toujours été la Gabelle. 90% des fidèles, ils sont ici. Heureusement qu'on a la mosquée, parce que vous avez pas mal de jeunes qui viennent se renseigner quand ils n'ont rien à faire. Je le connais parce que je le vois tous les jours, je les rencontre tous les jours. Et je peux vous dire que voilà, il suffit d'une petite étincelle. Heureusement, on a le stade. Ah, Dieu merci qu'on a le stade. Il suffit de passer à 17h, 17h30, vous avez plus d'une cinquantaine de jeunes en train de jouer, en train de faire la queue, à attendre, monter les équipes. Heureusement, on a le foot.
Moi, ce que je dis, c'est que cette mosquée, elle est là pour améliorer le quartier, pour améliorer l'image de l'islam, pour améliorer Fréjus, parce que si vous regardez l'architecture juste du bâtiment, ça donne de la prestance à la ville. Tous les gens qui n'ont jamais mis les pieds à la Gabelle, ils mettent les pieds juste pour voir la mosquée. Et quand ils passent, ils sont pas déçus. Ils se disent « Ah, bah, c'est beau, c'est bien, c'est magnifique ». Les cachets, on la voit pas, c'est pas flagrant, ça dérange personne. C'est un architecte de Saint-Raphaël qui l'a fait, elle est magnifique. Si vous voulez, on va aller voir la tente dans laquelle on fait actuellement la prière. On va monter juste là à l'étage, comme ça on la voit de dessus. Et ensuite, on ira à l'intérieur pour que vous constatiez que c'est pas digne, quoi. C'est pas possible de faire la prière là-dedans. Ça fait déjà quelques mois. Bon, l'été, ça va. Mais là, à l'approche de l'hiver, il faut vraiment une solution appropriée, quoi. À travers la fenêtre du nouveau bâtiment, on peut voir la tente dans laquelle on fait la prière actuellement. Et donc, on voit dans quel état elle est. On a essayé de recoudre un petit peu là où c'était déchiré pour éviter d'être trempé. Elle est rapiécée de partout. Hein. Vous voyez bien, elle a commencé à déchirer. Les cordages, ils commencent à lâcher. Vraiment, c'est plus possible. C'est comme si on était à l'extérieur, puisque pour s'abriter, il faut être hors d'air, hors d'eau. Là, quand il y a du vent, limite, elle s'envole. Et quand il pleut, c'est dedans pareil que dehors. Donc, faire la prière dehors, c'est pareil. Sauf que là, bon... On se rassemble, il y a des tapis, même si c'est mouillé par terre, c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'une des causes principales qui nous ont poussés à avoir un lieu de culte digne de ce nom.
On va voir là-bas ?
Allez.
Là, on est dans le chantier.
On arrive là, donc... sur l'espèce de chapiteau dans lequel on fait la prière. Vous voyez, c'est juste c'est de la toile, quoi. Hein. Ça fait même pas... c'est 3-4 mm d'épaisseur. Ça protège de rien du tout. Et puis, c'est pas imperméable, donc... quand il pleut, quoi. L'entrée, elle est là.
Je peux garder mes chaussettes ou pas?
Voilà.
Il y a deux personnes qui prient là.
On peut prier à n'importe quelle heure, hein, c'est pas. Pendant que vous voyez, sur les côtés c'est tout ouvert, puisque ce qui tenait sur le côté, tout est parti avec le vent, c'est déchiré. Vous voyez, ça tient à peine là, c'est sur le point de craquer. Les cordages, ils sont plus si rigides que ça, donc elle est en train de s'affaisser quoi. Alors cette tente, on l'a mis au début du travaux, ça fait peut-être 5 mois ou 6 mois qu'elle est là.
Et avant, c'était dans les garages.
C'était dans l'ancienne mosquée qui était en dur, mais c'était une dizaine de garages qui étaient côte à côte. On a cassé les séparations et donc ça faisait 4 murs avec la toiture. Mais comme c'était trop petit et puis même pas assez isolé, pas assez, on avait froid l'hiver, tout ça, c'était juste de la tôle hein, sur la toiture. Il n'y a pas de faux plafond, pas d'isolation, rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a eu ce projet. Qui, je rappelle encore, que voilà, il est assez grand, il est bien et tout, mais c'est juste ce qu'il nous faut. L'architecture, les décorations, c'est beau, d'accord, mais en termes de métrage, c'est vraiment ce qu'il nous fallait, quoi. Voilà, après, si vous voulez aussi, regardez, vous voyez, c'est une simple couche de polystyrène qu'on a mis au sol pour pouvoir marcher pour ne pas marcher sur la terre. Voilà, quand il pleut, ça fait quoi? Ça fait des trous par terre. Il y a des flaques d'eau de partout. Là, je soulève l'épaisseur de polystyrène qui fait pas plus d'un centimètre sur laquelle on marche. Et en dessous, c'est directement le gravier. Et là, vous voyez que les gouttes d'eau qui tombent donc du plafond de la tente, eh ben, elles ont creusé un trou qui fait 15 centimètres de profondeur quand même. Vous voyez là-bas, juste au-dessus de la tête de l'imam, hein, vous voyez le scotch orange, gris, tout ce que vous voulez. On rafistole, mais ça va pas tenir. On a peur que le truc nous tombe dessus. Est-ce que M. Racheline trouve que ça, c'est normal? Est-ce que M. Racheline trouve que c'est suffisant pour les musulmans? C'est bon, ils ont assez... ça leur convient. Si ça nous convient, c'est que vraiment... Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Racheline, hein, mais c'est que lui, il en a pas pour moi. Et là, il y a un petit souci. Pourquoi il veut empêcher un tel projet? Ou soit... Il est poussé par ses électeurs parce qu'il a surtout été élu par rapport à ce sujet. Et donc forcément, il doit rendre des comptes. Et dans ces cas-là, bah, il est obligé de lâcher de temps en temps quelques trucs pour calmer ses électeurs. Mais de l'autre côté, nous, on peut être des électeurs potentiels aussi. Parce que moi, j'ai rien contre le Front National. C'est pas... Ils défendent une politique d'immigration, je sais pas quoi, mais moi, je suis pas un immigré. Je suis né ici, j'ai la carte nationale des Françaises, mes enfants, ils sont français, ma femme, elle est française. Donc forcément, si un parti ou un autre... joue en ma faveur, je voterai pour. Si un parti ou un autre joue en ma défaveur, je voterai contre.
Vous pourriez voter pour le Front National?
Je vous le dis, si un parti ou un autre, il est en ma faveur, je voterai pour. C'est une réponse.
Difficile de comprendre les tergiversations de David Racheline sur la mosquée sans parler de l'UMP. C'est Elsa Di Meo qui m'a mis la puce à l'oreille. Avec la bénédiction de l'UMP, m'a-t-elle dit tout à l'heure. En rencontrant Alain Fortuit, dentiste, militant de la Ligue des droits de l'homme et observateur attentif de la vie politique locale, je réalise que le rôle d'une figure de l'UMP ne se limite pas à une simple bienveillance vis-à-vis du FN sur la question de la mosquée.
Une grosse partie de sa campagne s'est faite autour de la construction de cette mosquée et sur la nécessité de remettre en cause le permis de construire de cette mosquée. Bon, il a fait sa campagne là-dessus. Il a, je pense, été embarrassé, une fois maire de Fréjus, de cet aspect de sa campagne municipale. Et on a vu qu'au départ, il a mis sous le boisseau la question de la mosquée. Il a fallu que la droite, enfin l'UMP, hein, bon, la droite républicaine, insiste pour qu'il applique son programme, pour qu'il soit aujourd'hui au pied du mur et à remettre en cause le permis de construire, bon, d'une manière juridique. Hein, bon. Très clairement, Ginesta, le maire voisin, hein, le maire de la ville de Saint-Raphaël, pose les mêmes questions à David Racheline. Qu'est-ce qu'il attend pour appliquer son programme, de ce point de vue-là? En fait, c'est la droite dite républicaine qui pousse le Front National à la faute sur cette question-là. Et actuellement, Ginesta, donc dans la presse Dick Rachin n'applique pas son programme, qui fait semblant, qui retarde des choses, et que c'est pas sérieux. Ce qu'on peut voir dans la presse locale aujourd'hui, hein, que j'ai découvert aujourd'hui. Ginesta donne des arguments supplémentaires pour remettre en cause le permis de construire.
C'est-à-dire ?
La mosquée ne respecte pas les lois sur les distances, les hauteurs, etc., hein, par rapport aux autres immeubles. Et c'est une zone inondable. Bon, c'est quand même une zone inondable. C'est un quartier entier qui est en zone inondable depuis, depuis des années, des années, des années, quoi. Donc il y a vraiment une offensive de la part de la municipalité d'à côté. Parce qu'en fait, on est une grande commune, on est juste séparé par un ruisseau, quoi. Si les travaux sont stoppés, ça veut dire démolition de la mosquée, ben, ça serait vraiment une agression pour tous les musulmans qui vivent dans cette ville. Enfin, ça serait vécu comme ça, quoi, hein, comme une déclaration de guerre dans les quartiers. Ça serait grave dans cette ville, quoi. I'm so tired of being alone. Spend a 10 miles to all I've known. Songbird calling across the water. Side by
aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et la mosquée de Fréjus, une émission de Rémi Douate réalisée par Thomas Jost. Merci à Elsa, Alain, Isabelle, David, Hicham, Miloud et Badradine, ainsi qu'à Monique Brochot. C'est notre partenariat avec Mediapart, donc vous pouvez retrouver sur notre site en accès libre un article de l'excellente Marine Turki qui fait un bilan de la gestion du FN dans ses nouveaux territoires un peu plus de 6 mois plus tard. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production de cette émission. Bon après-midi sur France Culture.